Marc au chapitre 1, les versets 12 à 15. Marc au chapitre 1, les versets 12 à 15. Au nom de Jésus. Tout de suite après, l'Esprit le fit aller dans le désert. Il resta pendant 40 jours dans le désert où il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changer de comportement et accepter la bonne nouvelle. Amen. Suite à la thématique que nous avons vue dimanche passé, toujours, on est toujours sur ce même registre. Ce texte que nous avions ici aujourd'hui est encore un exemple qui nous aide à comprendre que le Christ, comme je l'avais dit la semaine passée, est notre vie et non un exemple. Le Christ est notre vie et non un exemple. Et je vais vous montrer cette nuance, cette différence encore une fois ici, parce que ce genre de texte, beaucoup se font piéger par le diable, même en prenant ce texte biblique disant que regardez, même le Christ, lui, il est parti dans le désert pour tester sa foi et il est parti dans le désert pour être tenté par le diable. Et donc nous aussi, on fait un raccourci, si tu es un bon chrétien, tu devrais tester ta foi comme Jésus l'a fait. Ça, c'est une hérésie. Or, c'est une hérésie qui circule tellement, même au sein de notre Église protestante, n'importe laquelle. Et en plus, si nous regardons bien le texte, le verset 12, ça laisse à penser que le Saint-Esprit nous pousse à aller vers la tentation. C'est une question. Au verset 12, il est dit, tout de suite après, l'Esprit le fit aller dans le désert. L'Esprit le poussa dans le désert. C'est étonnant. Et d'ailleurs, je tiens à attirer votre attention que dans la façon que Marc a relaté les faits, il n'est pas le seul à raconter l'histoire de la tentation, cette tentation que Jésus avait subie. Avec les autres évangiles, Matthieu et Luc. Mais ce qui est très frappant dans le récit de Marc, si vous comparez à celui de Matthieu et de Luc, Marc est le seul à ne pas donner les détails des tentations. Contrairement aux autres évangiles. Aux autres évangiles, on raconte comment le diable a tenté le Christ. Marc, lui, il fait juste un survol. C'est comme s'il voulait déjà dire à ses lecteurs que le but, justement, de ce passage dans le désert n'est pas du tout de mettre en lumière la tentation, mais plutôt la mission que Jésus avait reçue. Or, nous, quand on lit ce texte, tout de suite, on est braqué vers la tentation. Et là, c'est le diable qui est mis à l'honneur. Mais quelle est la mission de Jésus? Rappelons-nous que Jésus, ici, et c'est bien fait dans le lectionnaire, pourquoi le découpage a été fait à partir du verset 12 qui parlait du moment où Jésus a été baptisé. Et comme notre baptême, qu'est-ce qui s'est passé juste après le baptême? Il a été envoyé par l'Esprit dans le désert. Normalement, Jésus n'avait pas besoin de ce baptême, car il est déjà le Fils de Dieu. Il est le Fils bien-aimé. Mais ce jour-là, son baptême était une sorte de consécration pour dire, voici le héros qui va remplacer tout le monde, le pronobis. C'est lui qui va combattre pour nous. Et regardez comment il va vaincre le mal. Et là, il donne une démonstration dans le désert. Dieu consacre le héros, celui qui a été choisi pour vaincre le monde. Une question se pose, et je pense qu'elle trottine aussi dans vos pensées. Pourquoi Jésus est-il allé dans le désert? Or, il savait pertinemment que le diable l'attendait là-bas pour le tenter. Et en plus, il est bien dit que c'est l'Esprit de Dieu qui le poussa à aller dans le désert. Et même dans la version NBS, pour ceux qui ont cette Bible, il est dit « Aussitôt l'Esprit le chasse au désert », comme si on le poussait « Vas-y, vite, car quelqu'un t'attend ». Ces deux mots, « aussitôt » et « chasse », nous bousculeraient si nous ne faisons pas attention dans notre compréhension. Parce que c'est juste après le baptême, il se hâtait d'aller vers le désert comme s'il avait un rendez-vous à ne pas rater. C'est un peu l'impression que j'ai au moment où j'ai lu ce texte. Comme s'il avait un rendez-vous, un timing précis. Il doit y aller vite pour rencontrer le diable. En d'autres termes, cela fait partie de son programme, comme d'ailleurs son baptême, qui d'ailleurs est une chose qui n'est pas du tout normale. On voit ici deux situations anormales. Le baptême n'est pas normal, parce que normalement, ce n'est pas le Christ qui devait s'agenouiller devant un humain. Et ici aussi, le Christ qui va aller dans le désert pour être tenté, ce n'est pas normal, cette situation. Deux situations anormales, mais qui est vraiment compressée dans un texte ici. Et si vous voyez cette image de Jésus qui s'agenouille devant Jean-Baptiste, c'est même à la limite d'un blasphème. Mais le Christ l'a fait quand même. Et ma question, pourquoi il l'a fait? Et laissons le texte biblique nous donner la réponse dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Au nom de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée. Au Jourdain, il arriva auprès de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait en lui disant, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Ainsi nous accomplissons tout ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, si vous lisez cela et vous continuez le récit vers la tentation dans le désert, on voit clairement alors que le Christ a une feuille de route précise à accomplir. Il n'est pas allé dans le désert par hasard. Non, c'est une feuille de route à faire. Et dans les évangiles, si vous lisez bien les évangiles, dans tous les déplacements de Jésus dans la Bible, si vous le suivez bien, ce n'était pas le fruit du hasard. À chaque fois, il y avait un petit commentaire qui disait « Il devrait traverser la Samarie. Il devait aller dans tel endroit pour que les Écritures soient accomplies. » Vous voyez, il y a une feuille de route qu'il suit jusqu'à la croix. Tout est tracé. Tout un programme. Alors, de ce fait, ce passage au désert est prévu pour une mission. Donc, moi, plutôt, si je devrais réécrire l'évangile, pas l'évangile, mais le titre, ce n'est pas la tentation de Jésus, mais la mission de Jésus sur terre. Une mission bien précise, et non pour nous inciter à le copier comme quoi, prends modèle sur moi, regarde, je vais me faire tenter, toi aussi tu dois le faire. Ne joue pas ce jeu-là, tu ne fais pas le poids face au diable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit, il faut fuir la tentation. nous ne sommes pas le Christ. La réponse de ce pourquoi Jésus devait passer au désert aussi se trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, que je trouve bien adéquat, Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il devait devenir tout semblable à ses frères, il devait, afin d'être leur grand prêtre, fidèle et plein de bonté, dans son service devant Dieu, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Et maintenant, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés. Vous entendez ? Maintenant, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'il a été tenté lui-même et qu'il a souffert. Donc, si nous prions, ne nous soumets pas à la tentation, parce que le Christ lui-même, il a été déjà tenté et il a déjà remporté la bataille. Il nous donne la victoire. Cette situation dans le désert, c'est exactement comme ce qui s'est passé aussi à la croix. Seul le Christ doit aller dans le désert. Regardez bien le texte. Il n'était pas encore avec ses disciples. Il était seul. Même situation à la croix. Personne ne peut y aller avec lui ou être à ses côtés. Il est crucifié pour tous. Et donc ici, il a été tenté aussi pour tous. Il a gagné pour tous. Le Christ devient ce qu'on appelle the corporate personality, c'est-à-dire il est la représentation de tout le monde. Il est mort pour moi. Il me représente devant le Père à la croix. Il est à la droite du Père pour moi. Il est mon ambassadeur en ce moment à la droite du Père. Il prie pour moi. Et donc, quand je fais mes prières, Dieu entend la voix de son Fils qui est à sa droite. Voilà l'effet de sa victoire. Et d'ailleurs, c'est uniquement sur cette base que nous pouvons espérer avoir la vie éternelle. Si un jour je quitte ce monde et que je devrais être devant le Père, je me tournerai vers le Fils. Je suis à toi et lui seul peut m'ouvrir la porte. Je ne peux pas me vanter de tout ce que j'ai fait. Il est pour moi mon salut. Sur ce que Jésus a fait pour moi. Et là, tout change. Je me confie à lui parce qu'il a déjà tout fait pour lui. Un théologien qui s'appelle Jean-Christian Becker avait bien reformulé cette corporation en faisant un jeu de mots intéressant. Il disait en anglais « The one for all, celui pour tous. The one in all, celui en tout. » Et enfin, il dit « The once for all, une fois pour toutes. » Voilà ce que Dieu nous a fait, ce que Jésus a fait. Et si on retraduit cela dans les propos de Luther, le Christ pour nous, le Christ en nous, et nous sommes en Christ. Voilà l'union parfaite, la communion avec le Christ. Et la compréhension de ces quelques mots-là sont très précieuses parce que ce texte que nous avons ce matin fait partie de ces textes qui met bien en lumière cette idée-là. Le Christ est notre représentant. Il a tout fait pour nous. Il a battu pour nous. Nous n'avons plus rien à faire. Il a tout réalisé pour nous. Et c'est ça la grâce, chers frères et sœurs. Tu n'as plus rien à faire. Tu ne fais que recevoir ce qu'il t'a donné. Et c'est ça le péché capital, le fait de ne pas accepter ce don. Pourtant, tu n'as rien fait. On te le donne gratuitement. C'est très important de le souligner que le Christ a tout réalisé une bonne fois pour toutes et en lui seul. Cela signifie qu'il est le seul capable à combattre le mal. Il est le seul capable à combattre le monde, la souffrance. Et après avoir tout gagné, il nous l'a donné. Et pour simplifier encore l'explication, je pourrais prendre l'image d'une équipe de foot qui joue une finale. Même si ce n'est qu'une seule personne qui a marqué tous les buts, c'est toute l'équipe qui est déclarée champion, non? Et même, comme on voit dans chaque Coupe du Monde, même celui qui était sur le banc de remplaçants pendant toute la compétition, à la fin, lui aussi, il reçoit les médailles. Pourtant, il n'a même pas transpiré qu'une seule goutte. Ce sont ses copains qui ont tout fait le boulot. Et lui aussi, il est champion, malgré lui. Voilà le pronobis. C'est Dieu qui s'est démêlé. C'est Dieu qui fait tout. Et toi, son enfant, tu ne fais que recevoir. La conséquence directe du fait est que nous sommes unis à lui, alors le royaume de Dieu est devenu accessible. C'est pour ça que Jésus a dit, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire que tu es avec lui, par lui, grâce à lui, tu es dans le royaume de Dieu. Et j'imagine Jésus seul face à cette tentation, ces épreuves. Et ce n'est qu'en revenant, après avoir gagné la première manche, je dis bien la première manche parce que le combat n'était pas encore terminé, ce n'est qu'après avoir battu le diable qu'il a choisi ses disciples, si vous continuez la lecture. C'est intéressant pourquoi l'évangéliste a mis cet ordre-là. Après avoir battu le mal qu'il a choisi les disciples. Et de plus, si vous regardez le ministère de Jésus, on peut dire que dès le début et à la fin de la croix, sont deux situations parallèles. Le début de la mission de Jésus, on peut le commencer à partir de cette tentation dans le désert, et la fin à la croix. Regardez bien ces deux points intéressants. Il a commencé avec une lutte acharnée avec le diable, comme si c'était une sorte de prélude qui annonce déjà la couleur, le programme qui va venir, comme quoi il y aura une bataille acharnée qui ne sera pas facile. Parce qu'il est dit dans Luc chapitre 4, verset 13, voici ce qu'il est dit, « Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, » ça c'est la version de Luc, « le diable s'éloigna de lui » jusqu'à une autre occasion. Ça, c'est Luc seul qui a cette version-là. Comme s'il disait, on se retrouvera, mon cher ami. On va se retrouver. Et c'était où, le deuxième rendez-vous ? À la croix. Là, il est revenu en force. Même situation, regardez bien, c'est parallèle. Hein, ce qui s'est passé sur la croix. Ah, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre, sauve-toi-même. Ça fait écho si tu es le Fils de Dieu, saute en bas. Vous voyez ? Le diable qui revient, mais sous une autre forme, très subtil, très malin, et qui cherche encore à avoir le Christ. Il sait qu'il a la capacité de descendre de la croix. Il savait aussi, dans le désert, qu'il pouvait transformer la pierre en pain. Et c'est là qu'il voulait faire mal. Et le Christ ne l'a pas entendu. N'a pas suivi ses indications. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à chercher la victoire par nous-mêmes. La victoire, elle est déjà là. En Jésus-Christ, tu as la victoire. En lui, il est dit ici que le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. C'est ça le message du carême. En lui, tout est accompli. Tu ne pourras pas dire, mais on verra si je vais gagner ou pas. Tout est accompli. Et le règne de Dieu s'est approché de toi. Nous qui sommes faibles, nous qui n'avons rien fait, nous entrons librement et gratuitement dans ce royaume de Jésus-Christ, qui pourtant, lui seul, a le mérite, puisque c'est lui qui a livré bataille. Et pour terminer, j'aimerais vous relire ce passage dans Zacharie. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Amen.